Radio Prague, les informations.
Le Premier ministre tchèque veut s'assurer une majorité au Parlement d'ici lundi. Karel Schwarzenberg va rencontrer Hillary Clinton ce jeudi. Et les Vietnamiens de République tchèque veulent être reconnus comme une minorité nationale. Le gouvernement tchèque doit obtenir une large majorité au Parlement d'ici lundi, faute de quoi des élections législatives anticipées seront organisées, a déclaré ce mercredi le Premier ministre tchèque Petr Nečas. Si je ne sais pas clairement d'ici lundi si le gouvernement dispose ou non d'une nette majorité à l'Assemblée, la meilleure solution sera de convoquer des élections anticipées en juin, a-t-il déclaré aux journalistes. La coalition au pouvoir est menacée d'éclatement après la défection de nombreux membres du parti centriste Affaires publiques. Les chefs de la coalition au pouvoir ont convenu le 10 avril dernier d'un ensemble de mesures d'économie surmontant des différends qui avaient menacé de faire imploser le gouvernement. En marge de la rencontre avec ses homologues de l'OTAN à Bruxelles, le ministre des Affaires étrangères tchèque Karel Schwarzenberg va rencontrer la secrétaire d'État américaine Hillary Clinton ce jeudi. Au programme notamment l'achèvement de la centrale nucléaire tchèque de Temelín, le français Areva, le consortium tchéco-russe Škoda JS Hydropress et Atomstroy Export et l'américain Westinghouse sont en lice pour la construction de deux réacteurs supplémentaires à Temelín. Le sujet avait été abordé l'an dernier entre le Premier ministre Petr Nečas et le président américain Barack Obama. Et puis ce mercredi à Bruxelles, le ministre de la Défense Alexander Vondra doit rencontrer son homologue américain Léon Panetta. Ils doivent signer un accord qui permettrait à des sociétés d'armement tchèques d'obtenir des commandes de l'armée américaine. À l'heure actuelle, de telles commandes sont impossibles en raison des lois donnant la priorité à des sociétés américaines. Les Vietnamiens de République tchèque veulent obtenir le statut de minorité nationale reconnue. L'Union des Vietnamiens de République tchèque et d'autres associations en ont fait la demande officielle. Les ressortissants vietnamiens souhaiteraient également obtenir un représentant au Conseil du gouvernement pour les minorités nationales. La minorité biélorusse demande également une reconnaissance similaire ainsi qu'une représentation officielle. Selon la législation tchèque, sont considérées comme minorités nationales les personnes ayant la citoyenneté tchèque, vivant en République tchèque, mais se différenciant par leur origine ethnique, leur langue, leur culture et leur tradition. Le nouveau directeur de la Fondation Forum 2000 est Jakub Klepal, qui remplace à ce poste Oldřich Černý, décédé il y a quelques temps. Jakub Klepal a été choisi par le conseil d'administration et possède une expérience dans l'organisation de 8 conférences et autres projets du Forum 2000. L'un des fondateurs du Forum 2000 était l'ancien président tchèque Václav Havel, décédé en décembre 2011. La Fondation Forum 2000 est porteuse du message de Václav Havel dans le domaine de la défense de la démocratie, des droits de l'homme et le développement de la société civile. On finit par un mot de tennis. Tomáš Baldek s'est qualifié pour les huitièmes de finale à Monte-Carlo. Le Tchèque a eu raison du Croate Martin Cilic, 7-6, 6-1, malgré une frayeur dans la première manche quand il a perdu toute son avance. Baldek jouera désormais sa place en quart de finale face au vainqueur de la rencontre opposant Paul-Henri Mathieu à Kei Nishikori. Météo, jeudi, jour de fête des Rostislavs, le temps sera variable avec de possibles averses localisées. Les températures, quant à elles, varieront entre 13 et 17 degrés pour les maximales. C'est la fin de ce bulletin d'information. Tout de suite, la suite du programme présenté par Václav Richter. Restez avec nous.
Faits et événements en République tchèque.
Le parti Affaires publiques, une des trois formations de la coalition gouvernementale tchèque, se désagrège. Uherské Hradiště a obtenu le titre de la ville historique de l'année 2011. Tels sont les thèmes que nous allons vous proposer dans la première partie de cette émission. La suite sera réservée à notre rubrique historique, dans le cadre de laquelle l'étudiante Lucie Reitingerová vous parlera de l'immigration tchécoslovaque en France de 1948 à 1968. Voilà donc les thèmes de cette émission que nous avons préparée pour vous. Merci de rester avec nous et bonne écoute. La crise gouvernementale a franchi une nouvelle étape cette semaine avec la scission du parti de coalition Affaires publiques après l'annonce faite par la vice-première ministre Carolina Peake de se retirer du parti et de former une nouvelle plateforme politique. L'objectif est de proposer la relève d'un parti traversé depuis plusieurs semaines par une série de turbulences internes qui risque bien de signer sa mort politique et de provoquer par la même occasion la chute du gouvernement. Les détails avec Paul Bauer.
Alors qu'elle avait annoncé vouloir briguer la direction du parti Affaires publiques, la vice-première ministre Carolina Peake a annoncé ce mardi dans la soirée quitter définitivement le parti de la coalition dont elle était l'une des personnalités les plus influentes. Fidèle au premier ministre et à l'ensemble du gouvernement, Carolina Peake veut également entraîner hors du parti Affaires publiques plusieurs députés et ministres afin de créer une nouvelle plateforme politique. L'enjeu est de taille puisqu'il s'agit pour elle de garantir une majorité à la Chambre des députés suffisante au maintien du gouvernement. Carolina Peake explique prudemment les raisons qui l'ont menée à provoquer une scission au sein du parti. On l'écoute.
Ces dernières semaines, lorsqu'il a été question de réunir une conférence nationale du parti, j'ai annoncé que j'étais prête à proposer ma candidature à la présidence du parti Affaires publiques. Au même instant, j'ai demandé aux membres de la direction du parti s'ils étaient d'accord de promouvoir ma vision des choses et s'ils souhaitaient suivre une voie constructive en continuant de soutenir le gouvernement, de travailler au sein de celui-ci dans le cadre d'une politique constructive et non destructive. Lors de la conférence du parti, j'ai vu que la direction appelait à la poursuite de la crise gouvernementale. Lorsqu'ils ont évoqué le départ du ministre des Transports Pavel Dobesch, il était clair pour moi que le parti Affaires publiques n'était pas en mesure de suivre un style constructif.
À l'annonce de son départ, plusieurs personnalités politiques du parti Affaires publiques ont déclaré suivre la vice-première ministre. Les deux détenteurs d'un portefeuille ministériel du parti encore présent au gouvernement, Pavel Dobesch, ministre des Transports, et Camille Jankowski, ministre du Développement Régional, se sont rangés derrière Carolina Peake. Elle va toutefois préciser le nombre de députés qui composeraient la nouvelle plateforme politique de la coalition gouvernementale. Afin de conserver la majorité à la Chambre des députés, le gouvernement a besoin de 7 députés favorables à Carolina Peake. Sur les 25 députés qui composent le groupe Affaires publiques, 4 ont annoncé mardi soir se joindre au nouveau groupe parlementaire, 4 sont encore indécis. 9 se rangent derrière Vidbarta, 4 sont indécis mais ont fait savoir qu'ils pourraient s'associer à la nouvelle formation politique. 3 ne se sont pas encore prononcés. Dans un communiqué de presse, le ministre des Transports, Pavel Dobesch, considère qu'elle est la seule qui puisse porter un projet d'avenir pour les membres qui souhaitent la suivre. Le ministre du Développement Régional, Camille Jankowski, est l'un des premiers à s'être rangé de manière inconditionnelle derrière la vice-première ministre. On l'écoute.
Carolina Peake représentait ces derniers mois la seule personnalité qui puisse diriger et relever le parti. En quittant le parti, elle me prive de la seule raison d'y rester.
De son côté, le premier ministre Petr Nečas a rappelé la condamnation pour corruption de l'un des principaux leaders du parti Affaires publiques, Vidbarta, qui le rend partie responsable de la crise gouvernementale. Il a en outre signalé l'enjeu de la situation de la crise actuelle pour le gouvernement et la nécessité du maintien d'une majorité stable afin de mener à bien le programme de réforme que le gouvernement entend poursuivre. On écoute Petr Nečas.
Jako předseda vlády považuji za vyloučené.
En tant que chef du gouvernement, je considère qu'il est exclu que mon gouvernement continue de travailler avec un groupe parlementaire dont l'un des membres condamnés pour corruption continue de diriger de manière formelle et en coulisses toute une série de choses telles qu'il les a dirigées dans le passé. Je considère entre autres que le gouvernement doit avoir une majorité sûre afin de continuer son programme de consolidation des finances publiques et ses réformes de modernisation. Nous laissons donc jusqu'à lundi prochain aux protagonistes pour assurer le gouvernement qu'il dispose de cette majorité.
K dispozici předseda vlády tedy a jasnou informaci, že vláda má tuto bezpečnou většinu.
Le premier ministre a précisé qu'en l'absence d'une majorité confortable à la chambre basse du Parlement, il appellerait sans tarder la tenue d'élections anticipées.
C'est la ville de Uherské Hradiště a Moravie qui a obtenu le titre ville historique de l'année 2011. Après Znojmo, ville historique de 2010, la commission d'experts a donc distingué pour la deuxième fois un site de Moravie du Sud. Cependant, Uherské Hradiště n'est pas et ne veut pas être qu'un musée de monuments historiques et longtemps joué aussi un important rôle culturel dans la région. Uherské Hradiště est une agglomération de 25 000 habitants située au bord de la rivière Morava. La ville, fondée en 1257 par le roi tchèque Přemysl Otakar II, est devenue le centre de la Slovaquie Morave, une région célèbre grâce à ses traditions, à la richesse de ses costumes folkloriques, à la beauté et la verve de ses chansons et à la qualité de son vin. Elle s'est qualifiée pour la finale du concours des villes historiques avec Kutná Hora, un beau site médiéval situé non loin de Prague, et Chrudim, ville culturelle surnommée l'Athènes de Bohême de l'Est. C'est lors d'une cérémonie dans la salle espagnole du château de Prague que la distinction a été remise aux représentants de la ville.
À titul historické město roku 2011 získává město Uherské Hradiště.
Selon Květa Vytvarová de l'association des sites historiques qui co-organise le concours, Uherské Hradiště doit sa victoire notamment à ses activités pour stimuler la vie sociale et pour conserver les traditions de la Slovaquie morave.
La ville a été nominée 3 fois et c'est, je pense, ce qui a renforcé ses chances dans ce concours. Il faut dire que des travaux importants y ont été réalisés. La ville a non seulement restauré divers monuments historiques, mais aussi sa vie sociale qui est également très riche. Il y a des associations et des cercles très actifs. Il y a un groupe important qui participe au programme de revitalisation.
A združení, která pracují, jsou tam, je tam silná skupina programu regenerace.
Outre la revitalisation du centre historique, le jury a apprécié la reconstruction de la ville après la crue catastrophique ayant ravagé Uherské Hradiště en 1997. Son maire Stanislav Blaha répertorie d'autres projets que la ville a réalisés pour sauvegarder et réhabiliter son patrimoine.
L'initiative importante a été la restauration de l'ancienne synagogue qui abrite aujourd'hui la bibliothèque municipale. Nous continuons à participer de manière importante au programme de revitalisation au cours de cette année. Nous ouvrirons par exemple le collège des Jésuites après une restauration complète qui a coûté 100 millions de couronnes. Le collège sera rouvert au public en août prochain.
Le maire espère que la ville réunira les moyens nécessaires pour la restauration d'autres maisons anciennes de son centre historique, qui est un site classé. Il ne veut toutefois pas négliger les monuments qui se trouvent en dehors de cette zone. Il constate que c'est un travail sans fin, qu'il est toujours nécessaire de reprendre depuis le début, mais qui vaut la peine. Parmi les plus beaux monuments de la ville, il y a l'église Saint-François-Xavier qui fait partie d'un important ensemble d'édifices baroques bâtis par les jésuites au XVIIe siècle, l'église de l'Annonciation du couvent des franciscains du XVIe siècle ou les restes d'un ensemble de constructions ecclésiastiques datant de la période de l'Empire de la Grande Moravie à la fin du premier millénaire de notre ère. Uherské Hradiště désire être cependant aussi une ville moderne et se dote de nouvelles constructions. En 2003, un nouveau centre des sports y a été ouvert et en 2006, on y a inauguré un nouveau centre universitaire. La ville doit aussi son prestige culturel au festival L'école d'été du film et au festival international des instruments folkloriques. Vous êtes toujours sur Radio Prague, émission en langue française. Lucie Reitingerová est étudiante à Olomouc. Elle fait une thèse sur l'émigration tchécoslovaque en France de 1968 à 1989. Un travail qui est en réalité la suite de son travail de master où elle s'est intéressée à cette même émigration juste après le coup de Prague de 1948 à 1968. C'est cette période qu'elle a évoquée pour Radio Prague. Voici la reprise d'une émission que nous avons présentée en avril 2011.
Chapitre de l'histoire.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle rubrique historique. Lucie Reitingerová est étudiante à Olomouc et elle prépare à l'heure actuelle une thèse sur l'émigration tchécoslovaque en France de 1968 à 1989. Un travail qui est en réalité la suite de son travail de master où elle s'est intéressée à cette même émigration juste après le coup de Prague de 1948 à 1968. Elle a parlé pour Radio Prague de ce sujet et elle nous a expliqué comment elle était venue à s'y intéresser. On écoute Lucie Reitingerová.
Déjà au lycée, je,
Je me suis intéressée aux relations franco-tchécoslovaques. Après, j'ai décidé d'aller étudier le français et l'histoire. Et quand j'ai fait mon travail de licence, j'ai par hasard rencontré M. Fauché, qui m'a parlé de son père, de lui-même, de l'amitié franco-tchécoslovaque. Je me suis rendu compte qu'il y a des gens très intéressants, qu'il y a un exil tchèque ou tchécoslovaque qui vit en France et que je ne connais pas du tout. Donc je me suis décidée de s'intéresser à cette problématique. Voilà.
Pour parler un petit peu de cette première vague, finalement, parce qu'on peut dire que c'est une première vague entre 48 et 68. Est-ce que vous pourriez un petit peu faire une typologie des personnes qui émigrent? C'est qui? C'est les hommes politiques? C'est les artistes? Et dans quelles conditions, en général, émigrent-ils? Est-ce que vous pourriez citer quelques personnes, un peu des personnes phares de cette première vague? Et puis également me dire si, en fait, ce sont des personnes qui sont liées, par exemple, à des partis politiques, en particulier tchèques.
En 1948, il y avait beaucoup, beaucoup de personnes qui sont émigrées et il y avait une situation en Europe très difficile parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'émigrés, des gens sans la nationalité. Et en général, l'exil tchécoslovaque a voulu partir aux États-Unis, mais il y avait des visas et où il faudrait avoir le visa, mais c'était très difficile de les gagner. La plupart des migrations est partie en Europe, en France, en Allemagne, où il y avait des camps réfugiés, mais la migration n'a pas voulu rester en Allemagne. Tout le monde a voulu d'aller aux États-Unis. Et la France, la Grande-Bretagne, c'était peut-être le compromis pour eux. Donc en France, il y avait un exil très fort, ou une émigration très forte en 48-49, au début des années 50. Mais après, la plupart de ces gens sont partis aux États-Unis.
Donc en fait, la France était une sorte de, finalement, d'arrêt temporaire sur la route des États-Unis.
Oui, c'est ça. Juste un peu de gens ont resté en France. Et c'était peut-être aussi les raisons personnelles pour qu'ils se sont décidés de rester là-bas. Parce que c'était, par exemple, le jeune homme qui s'est marié avec une Française. Donc ils sont décidés de rester en France. Ou bien ils ont gagné un travail très intéressant, donc ils se sont dit pourquoi commencer de nouveau aux États-Unis quand si j'ai le travail en France. Donc si quelqu'un a resté en France, c'était soit des raisons personnelles ou des raisons professionnelles, soit qu'ils ont un lieu très proche. C'était le cas de Hubert Tripka,
qui faisait partie du gouvernement tchécoslovaque avant le coup de Prague, en fait.
Oui, oui. Sa femme était une Française, donc c'était, pour eux, c'était une certitude de rester en France. Mais c'est vrai que Hubert Tripka a beaucoup voyagé.
Ces personnes qui s'installent, donc, dont vous dites qu'ils restent souvent pour des raisons personnelles, est-ce que c'est des personnes qui se côtoient? Est-ce que finalement ils forment une communauté soudée, homogène? Est-ce qu'ils se rencontrent? Et s'ils se rencontrent, dans quel cadre? Est-ce qu'il y a des associations? Est-ce qu'il y a des lieux de rencontres privilégiés dans la mesure où ils sont dans la même ville? Parce que peut-être qu'ils ne sont pas tous à Paris, je suppose.
Je dirais que un point commun pour eux, c'était Paris, que la plupart d'eux ont resté à Paris. Il y avait aussi les autres lieux, mais la plupart des émigrés ont resté à Paris. Au début, dans les années 50, les gens ont encore cru qu'il y aurait de revenir bientôt en Tchécoslovaquie. Donc, ils se sont organisés politiquement. Il y avait des partis politiques, la démocratie sociale, les chrétiens, en fait, presque tous les partis qui ont existé en Tchécoslovaquie avant la coupe. Mais il y avait le conseil de la Tchécoslovaquie libre. Le siège de la Tchécoslovaquie libre était aux États-Unis, mais il y avait aussi le siège parisien. Ils se sont organisés, ils ont essayé de faire quelque chose pour libérer la Tchécoslovaquie, mais à la fin des années 50, en fait, le point très important était l'insurrection de Hongrie.
Quand, en 1956.
Oui, en 1956, quand le monde n'a pas réagi. Donc, je dirais qu'on peut voir un peu un certain type de résignation. Jusqu'à 1956, le mouvement politique était très fort, mais puis ça, c'est pas si fort après 1956. Et je dirais qu'après l'exil tchécoslovaque à Paris, c'est un exil des individualités très fortes qui se sont essayées de faire quelque chose, mais pas
de manière organisée, oui. En fait. C'est des individus qui, tout seuls, en fait, font un travail, oui. Finalement, de résistance, oui. Entre guillemets, mais de manière très individuelle.
Oui, comme ça, parce qu'il y avait les groupes en 1960, par intégré à...
Il est revenu des États-Unis, oui, déjà, oui. Pour fonder Svedestvi à, oui. Paris.
À Paris, donc, il y avait le groupe de Svedestvi. Il y avait l'autre groupe de la mission catholique qui était aussi très fort, qui a essayé d'aider. Puis il y avait par exemple Monsieur Vrzala qui a travaillé dans les structures européennes. Il était très actif dans les structures des chrétiens européennes. Et donc il a voulu que la Tchécoslovaquie reste dans l'Europe, que l'Europe n'oublie pas la Tchécoslovaquie. Puis il y avait un mouvement ouvrière qui était aussi très fort. C'était par exemple Paul Bartoň qui a travaillé dans les forces ouvrières. Il a essayé de relever les fautes du communisme et de montrer que c'est pas ce qu'on pense.
Donc il y avait quand même une opposition de gauche, quoi, finalement,
oui.
En fait, au régime communiste, mais en exil, de nouveau.
Oui, en exil, de nouveau, oui. Oui, puis il y avait le groupe de Monsieur et Madame Dubénové, qui ont aussi... C'était la même chose pour Madame et Monsieur Fischera. Donc il y avait plutôt des groupes qui ont essayé de faire quelque chose... d'après la manière qu'ils ont pensé que c'est la meilleure chose qu'on peut faire, mais pas
un mouvement commun,
oui,
quoi.
Oui, mais ils ont coopéré, ça. Ils ont coopéré, mais il n'y avait pas une seule organisation qui a travaillé systématiquement pour faire quelque chose.
D'accord. Comment ces personnes qui arrivent en France sont-elles accueillies par les Français, en fait, par déjà tout simplement par l'administration française, tout bêtement?
Donc ça dépend parce que chacun a ses propres expériences, mais il me semble qu'en 1948, l'atmosphère en France n'était pas favorable pour les exilés, pour les émigrés. Je dirais que...
Le parti communiste déjà français était très fort.
Oui,
peut-être,
oui.
Que ça n'aidait pas forcément à l'accueil de personnes qui fuyaient un régime communiste.
Oui, c'est ça, parce que, comme vous disiez, il y avait un très fort mouvement communiste et les gens qui ont cru cette communiste, ils ont dit « Mais vous avez un paradis sur Terre, pourquoi vous avez quitté ?» Peut-être vous étiez les fascistes ou pourquoi vous avez quitté la Tchécoslovaquie, c'est bizarre. Soit ça, ou bien il faut toujours penser que c'était l'Europe après-guerre. Il y avait une pauvreté parce que la France était
détruite finalement.
Oui, détruite. Donc c'était très difficile de vivre. Donc il y avait... Les Français, on était pauvres. Et donc, il n'y avait pas la place encore pour les émigrés qui sont qui ont faim et qui ont voulu manger aussi parce que c'était difficile.
C'était Lucie Reitingerová, étudiante à Olomouc, qui fait une thèse sur l'émigration tchécoslovaque en France de 1968 à 1989. Ces propos ont été recueillis par Anna Kubišta. Merci de votre attention et de votre fidélité à Radio Prague. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous nos programmes sur www.radio.cz/fr.